Tout de suite,
État et civil
sur LFM Radio.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas Boraski, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours bien sur LFM 95.5, il est 11h. Et comme tous les mercredis, c'est l'heure d'État et civil, l'émission qui donne la parole aussi bien à l'État, aux collectivités, mais aussi aux associations pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous. Après avoir fait la présentation des métiers du personnel soignant, de pompiers, de policiers, aujourd'hui, nous allons parler du dernier corps de métier qui constitue la République française, l'armée. Partie intégrante de notre constitution, l'armée a pour mission principale de défendre le territoire français et sa population. Elle protège également les intérêts de la France et de ses alliés dans le monde et intervient pour le maintien de la paix. L'armée française se scinde en quatre grandes forces, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et la gendarmerie nationale. En termes de chiffres, tout d'abord, la France assure une présence militaire constante ailleurs dans le monde, mais là où l'armée française est la plus déployée reste à l'intérieur de notre pays. En effet, 20 150 militaires français sont déployés en France métropolitaine et les régions d'outre-mer, un corps de métier qui inspire la bravoure, le courage et surtout le respect. Ce dernier continue à attirer de nouvelles personnes dans ses rangs. L'armée de terre compte environ 98 000 soldats selon le site du ministère des Armées, avec une moyenne d'âge de 32 ans. Et notamment, un chiffre important, le 1, comme un seul métier, celui de soldat, mais 16 grands domaines de spécialité. Toutefois, cette branche de métier reste assez mystérieuse aux yeux de la population. Secret d'État, moins de médiatisation à l'instar de la police, des pompiers ou du personnel soignant. Et c'est donc pour cela qu'aujourd'hui, nous faisons cette émission sur ce corps de métier. Et pour répondre à nos questions, nous recevons au sein de l'écho d'LFM Radio, Capitaine Henri, chef d'équipe de recrutement chez CIRFATER, donc Centre d'information et de recrutement des forces armées, gradé capitaine à l'armée de terre. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors, tout simplement, première question, j'en ai parlé dans ma présentation d'émission, mais je vais vous laisser aller plus dans le détail. Quelles sont les missions de l'armée française, tout d'abord, on va dire, d'un point de vue international ?
Alors, à l'international, l'armée française répond à des missions de sécurité liées par des accords de défense avec différents États. C'est à ce titre-là qu'on intervient notamment au Sahel ou au Liban, dans le cadre de l'ONU, ou encore dans les pays baltes, dans le cadre de l'OTAN. Donc ce sont des accords qui donnent des missions à l'armée française dans le cadre de ces accords de défense.
D'accord, donc c'est vraiment bien dispatché sur toute
sur tout le territoire. Sur le territoire national, en métropole, des missions de sécurité dans le cadre de l'opération Sentinelle, et outre-mer, des opérations, je pense à l'opération Harpy en Guyane par exemple, qui est la lutte contre l'orpaillage illégal, ou la protection du centre spatial à Kourou en Guyane française. Plus des forces de présence dans nos territoires d'outre-mer, que ce soit à La Réunion, à Tahiti, etc.
Et justement, dans ces territoires d'outre-mer, sur notre territoire directement français, comment ça se passe les missions pour l'armée française ? Quels sont les dispositifs ?
Alors, le dispositif, donc l'opération Sentinelle, qui vise à protéger la population face à la menace terroriste, en appui des forces de sécurité, police et gendarmerie. Donc, on voit nos camarades qui patrouillent dans les villes depuis maintenant quelques années.
Alors justement, on a vu depuis maintenant plus d'un an, la crise du coronavirus a commencé en France. Ça a été une année très particulière et celle-là également. Tout simplement, comment se porte l'armée durant cette crise sanitaire, Capitaine Henri ?
Alors, l'armée se porte très bien. Nous poursuivons les missions, l'opération Sentinelle. Je pense à des opérations aussi comme Héphaïstos, qui est la protection des feux de forêt, la surveillance. Et dans le cadre plus particulier de la pandémie et de la lutte contre le coronavirus, l'armée française est venue, notamment via le service de santé des armées, est intervenue au profit des populations en appui des hôpitaux et du service de santé.
Donc vos activités, elles ont été adaptées, c'est ça ?
Les activités ont été adaptées. On a maintenu la préparation opérationnelle, l'entraînement de nos troupes, toujours dans le respect des gestes barrières et en se préservant du risque sanitaire. Mais bien entendu, on a continué à remplir les missions qui nous étaient confiées de façon à poursuivre, malgré la pandémie, malgré les difficultés ponctuelles, un entraînement et être toujours prêt à remplir les missions que l'État nous confie.
Je voudrais revenir un peu de manière générale sur l'actualité liée à l'armée. L'entreprise française, Atos, qui est un leader à l'international dans le numérique sécurisé et dans les technologies de l'information, a annoncé avoir eu un contrat majeur avec la Direction Générale de l'Armement, donc DGA, afin de moderniser les capacités de combat de l'armée de terre. Tout simplement, Capitaine Henry, pour vous en tant que militaire et capitaine notamment, j'imagine que c'est une excellente nouvelle que de voir l'armée française qui ne cesse de se développer au vu des nouvelles technologies déjà au sein de notre quotidien, qui le modifie, qui l'améliore.
Oui, alors effectivement, l'amélioration de nos moyens répond à des vrais besoins techniques pour que, en opération, nos soldats soient équipés des meilleurs matériels de façon à répondre de façon le plus professionnelle possible et la plus efficace possible aux menaces auxquelles on fait face. Cette amélioration des matériels, c'est à la fois les véhicules, mais vous avez parlé des moyens de transmission et de communication qui sont à la pointe de la technologie. Et nos soldats mettent en œuvre, je pense notamment par exemple les drones, aujourd'hui mettent en œuvre des drones en opération pour remplir les missions. Donc on utilise les nouvelles technologies, les nouveaux moyens mis à notre disposition pour remplir nos missions. L'effet recherché en permanence, c'est bien remplir la mission qui nous est confiée par l'État.
C'est ça, c'est se renouveler, c'est quelque chose au final qui est primordial et inévitable malgré tout.
Alors, c'est inévitable et c'est une bonne chose de voir nos matériels évoluer puisqu'ils vont offrir de meilleures protections, de meilleures pour nos soldats, une meilleure efficacité pour remplir la mission. Et c'est inévitable. Tout au long de notre histoire, l'armée de terre et les armées en général ont été toujours, entre guillemets, à la pointe de la technologie et de façon à répondre toujours mieux aux besoins de nos populations et de l'État.
Écoutez, comme en deuxième partie, nous allons parler du recrutement, on va commencer également à parler en cette première partie de l'aspect, de la relation que l'armée peut avoir avec la population. Comme je l'ai dit dans l'introduction, autre corps de métier dont nous avons fait la présentation, la police, qui représente l'ordre et surtout la protection de la population et le maintien de la paix. On a vu que ce dernier corps de métier est régulièrement critiqué par une partie de la population. Avez-vous le sentiment, Capitaine Henry, d'être un peu plus respecté au sein de l'armée vis-à-vis de la population ?
Alors, je pense que l'armée de terre et les armées en général ont une très bonne image auprès de la population. Alors, l'expliquer, je ne rentrerai pas dans ces détails, mais des exemples très simples. Lors des inondations à côté, dans la région niçoise, à l'automne, on a vu l'armée de terre intervenir au profit avec des moyens, notamment des régiments du génie, des moyens de travaux lourds qu'on peut mettre à profit de la population. Lors des inondations qu'il peut y avoir régulièrement, ou même dans le cadre de l'opération Sentinelle, l'armée de terre est vraiment au service de la population. Et dans ce cadre-là, je pense qu'elle a une très bonne image. L'exemple parfait est la popularité dont bénéficient les forces armées quand elles défilent le 14 juillet sur les Champs-Élysées.
Parce que moi, dans ma présentation, je disais que l'armée, c'est un corps de métier qui inspire la bravoure, le courage et surtout le respect. Vous rejoignez ces termes-là pour représenter l'armée ?
Oui, bien évidemment. Les valeurs que porte l'armée de terre, de service, de dévouement, d'équité, toutes ces valeurs que porte la République et l'armée de terre en particulier est bien sûr tournée vers le service de la population. Et de par ce fait-là, l'armée de terre est, je pense, bien perçue par l'ensemble de notre population.
Et justement, la population, avant de clôturer cette première partie d'état civil, certains commentateurs, observateurs publics, des citoyens aussi pointent du doigt la hausse de l'indélinquance et une défiance des jeunes vis-à-vis de l'autorité et de la hiérarchie. Est-ce que vous pensez qu'au vu de cette hausse, il serait peut-être judicieux d'en mettre en place le service militaire, sachant que pour certains, ce dernier permettait de rendre mature, de forger le caractère de la personne en question ? Quel est votre point de vue là-dessus, Capitaine Henry ?
Alors, l'armée de terre, les armées en général. Alors la fin du service militaire a répondu à des besoins opérationnels et des besoins liés à l'évolution des armées et des missions qui lui étaient confiées. Pour autant, aujourd'hui, la mise en place du service national universel en partenariat avec l'armée de terre, mais sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, répond à ce besoin. Pour autant, les missions des armées peuvent contribuer justement à une meilleure intégration, évidemment.
De votre côté, Capitaine Henry, quand est-ce que vous êtes rentré dans l'armée, à quel âge ?
Alors moi, je suis rentré en 2003 dans l'armée comme sous-officier après mon baccalauréat, comme sous-officier dans l'arme blindée cavalerie, donc les chars. Moi, ça répondait à une aspiration que j'avais depuis tout petit. Cette volonté de servir la France, d'avoir un métier d'action, vraiment au service des autres et de la France. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Et en tant que jeune personne, qu'est-ce que ça vous a apporté de rentrer dans l'armée ? Quelles valeurs vous ont été inculquées du coup ?
Alors je me suis pleinement épanoui pour plein de raisons, parce que les valeurs qui étaient portées par l'armée de terre et par les unités dans lesquelles j'ai servi correspondaient à ce que je recherchais, le service de l'autre, l'engagement opérationnel, l'action, les missions en opération extérieure, des métiers extrêmement techniques parfois, toutes ces domaines m'ont nourri et me nourrissent toujours, puisque aujourd'hui je poursuis ma mission en étant recruteur au service de l'armée et au service des jeunes qui veulent nous rejoindre.
Bah écoutez, c'est très bien, vous faites bien de terminer sur ces termes-là, parce qu'on va parler justement du recrutement en cette deuxième partie détails civils. C'est la fin de la première du coup. On va faire une petite pause musicale, on écoute Le Temps de Taïk et on revient tout de suite après pour la seconde partie détails civils. A tout de suite.
Aujourd'hui sur le
95.5. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner. Hey. Voilà, tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Partir sans te retourner. Je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi, tu m'as fait gaspiller. C'est toi qui veux parler. Et toutes tes meilleures phrases, tu veux les coller. Ne gaspille pas mon temps, yeah. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Ne me fais pas croire que je n'ai pas fait ce qu'il faut. On s'est arrêté, tu veux reprendre. Ne gaspille pas mon temps. Le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Oh, yeah, yeah. Manado, 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 manado.
95.5.
De retour sur le 95.5 avec moi-même Nicolas Boraski. Si vous venez de nous rejoindre, on démarre la seconde partie d'État et Civil, l'émission qui donne la parole à l'État, les collectivités, les associations pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous. Ce matin, on parle d'un corps de métier ô combien important dans notre pays, l'armée. Pour en parler sur les ondes de l'FM, nous sommes toujours en compagnie avec le capitaine Henri, chef d'équipe de recrutement chez Sirfater, au grade de capitaine. Tout va toujours pour le mieux, capitaine Henri ?
Tout va très bien,
passe à la partie. Alors du coup, deuxième partie, nous allons continuer à parler des activités de l'armée, mais du côté des recrutements. Tout simplement, première question, capitaine Henri, comment fait-on pour rentrer dans l'armée de terre ?
Alors, pour rentrer dans l'armée de terre aujourd'hui, il y a une première étape qui est de prendre un rendez-vous pour venir en CIRFA, donc en Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées, donc vous en avez dans tous les départements. Pour les Yvelines, c'est Versailles, mais vous avez aussi un CIRFA à La Défense et à Pontoise, donc en fonction de là où vous êtes, vous pouvez vous rendre dans le CIRFA qui correspondra le mieux. Donc on accueille à Versailles les candidats et en CIRFA on va présenter aux candidats les différentes voies pour rentrer dans l'armée, les différents parcours que l'on peut proposer, les différents postes que l'on peut offrir et avec le candidat on va construire son projet. L'objectif du recrutement dans l'armée de terre étant bien pour nous d'offrir, de recruter des jeunes femmes, des jeunes hommes, pour remplir des missions et du point de vue d'un candidat, de bien répondre à son attente et à ses aspirations. Donc leur offrir, voilà, l'armée de terre, c'est 16 000 recrutements par an. Donc à partir de là, on offre un panel de postes et de métiers extrêmement divers, de façon, et donc chacun trouvera sa place chez nous, je pense.
Parce que voilà, c'est un peu comme ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est un seul métier, celui de soldat, mais il y a plusieurs spécialités au sein de l'armée même, sur les différents à peu près, si vous pouvez donner des exemples pour les auditeurs, auditrices, quels sont à peu près les métiers possibles ?
Alors, dans les armées, effectivement, on recrute, on est tous soldats, moi le premier, je continue à m'entraîner, etc. On peut être recruté, il y a plusieurs choses, il y a trois niveaux, donc on peut être recruté comme soldat, comme simple soldat, donc militaire du rang, où là, effectivement, on ne demande pas de qualification ou de diplôme particulier. Puis, pour les titulaires d'un baccalauréat et plus, ils peuvent rentrer comme sous-officiers, qui sont des cadres de contact, le premier échelon du commandement, donc où on offrira des postes à la fois de technicien, donc de spécialiste d'un métier particulier, on y reviendra après, et de chef, puisque un jeune sergent commandera entre 6 et 10 personnes. Voilà. Ensuite, vous avez le recrutement officier, où là, on est sur des recrutements à partir de Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 5 et plus, où là, on est sur du commandement beaucoup plus... on est plus au cœur du commandement, puisque c'est eux qui vont donner les ordres en opération, qui vont assurer la planification, l'organisation, etc., des activités et des missions.
Et justement, donc, sur ce recrutement-là, j'imagine qu'il y a des tests qui sont passés, aussi bien physiques que comment dire, peut-être intellectuel, je ne sais pas si on peut le dire comme
ça. Oui, alors effectivement, alors je vais juste finir avant de basculer sur la partie test, sur l'aspect métier, derrière en domaine de spécialité, donc nous sommes tous soldats, et on peut rentrer comme combattant de l'infanterie par exemple, qui sont les combattants à pied, mais il y a aussi le combat des blindés, les chars, le génie, tout ce qui est minage, déminage, travaux d'aménagement, etc. Vous avez des métiers de la sécurité avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont des militaires. Vous avez la sécurité civile qui assure des missions au service de la population avec la protection pour les incendies, tout ce qui est intervention en cas de catastrophe naturelle. Vous avez la logistique. Vous avez les transmissions, donc la haute technologie, avec des postes, je pense notamment à tout ce qui est cyber et cyberdéfense, puisqu'on offre aujourd'hui des métiers extrêmement pointus dans ces domaines-là. Mais là encore, nous sommes tous soldats. Donc, pour y arriver, effectivement, il y a un parcours. Une fois que vous êtes venu en CIRFA, que vous avez fait un premier rendez-vous, on va vous proposer de vous remettre un dossier de candidature. Et à l'issue, vous serez évalué, vous, donc, pour l'Île-de-France. Vous serez évalué au centre de sélection qui est à Vincennes. Et vous serez évalué sur... Alors, vous aurez une visite médicale, puisque pour être militaire, effectivement, il faut être médicalement apte à servir, être en bonne forme physique. Donc, vous passez devant un médecin, vous passez devant... voilà, vous avez un certain nombre de tests. On vérifie que vous êtes en bonne santé. Et après, vous avez des évaluations sportives. Donc, avec un test de course à pied, un test de traction ou tirage de poulie pour le personnel féminin. Vous avez des squats et un parcours avec un certain nombre d'obstacles. C'est vraiment un parcours d'aisance pour voir comment vous vous déplacez, vous abordez un obstacle, etc. Mais ce n'est pas un parcours du combattant.
Vous faites bien de le rappeler.
Vous avez, alors, ensuite, vous avez des évaluations à la fois tests psychotechniques et de personnalité, où l'objectif est bien de vous connaître. Pour les recrutements officiers et sous-officiers, vous avez un test d'anglais aussi.
D'accord.
L'ensemble de ces évaluations, à l'issue de ces tests, vous passez en entretien avec un sous-officier évaluateur qui va, ou un officier psychologue, et vous allez revenir sur les évaluations et, en fonction du profil, peut-être affiner, vous aider à affiner le projet que vous avez de façon à, voilà, à répondre au mieux à vos aspirations et répondre aux besoins de l'armée. Voilà. On est sur à la fois de rails qui doivent se rejoindre, ce que vous voulez, vous, candidat, vous désirez, et ce que nous, l'armée, ce dont l'armée a besoin aujourd'hui.
Et justement, vous avez bien fait d'en parler durant toute votre présentation, la gente féminine, les dames, mesdames, justement, quand elles viennent à l'armée, comment ça se passe? Est-ce que c'est à peu près, je ne sais pas comment expliquer, mais alors, est-ce que déjà vous avez beaucoup de demandes auprès des dames pour rejoindre l'armée?
Alors, on a beaucoup de demandes et les dames ont effectivement aucune, il n'y a pas de différenciation. Alors si, techniquement, sur des tests, par exemple le sport, où les hommes vont faire des tractions, pour les femmes, ça va être le tirage de poulie avec un poids. C'est adapté en fonction de la morphologie, mais il n'y a pas de discrimination, il n'y a aucune différenciation au recrutement et dans l'entraînement pour les femmes. L'ensemble des postes de l'armée de terre, tous les emplois de l'armée de terre, que ce soit militaire du rang, sous-officier ou officier, quel que soit le domaine d'emploi, sont ouverts aux femmes. Et voilà, la rémunération, puisque c'est quelque chose d'important, aujourd'hui une femme a le même cursus de carrière qu'un homme, il y a le même rémunération qu'un homme, donc c'est vraiment quelque chose qui est intégré depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies effectivement, voilà, c'est pas un sujet, c'est pas une difficulté.
Et du coup, pour les jeunes qui souhaitent rejoindre vos rangs, est-ce qu'ils doivent quand même avoir en tête que dès le départ, ils vont pas aller au front tout de suite? Parce que des fois, on a cette image aussi de l'armée où je m'engage, je vais tout de suite au front, je pars à l'étranger directement.
Alors, non, effectivement, on n'envoie pas en mission immédiatement nos soldats. Nos soldats vont, donc à l'issue des évaluations, reviendront en CIRFA et avec leur conseiller, le sous-officier ou l'officier qui les accompagne dans leur cursus de recrutement, on va les orienter et le candidat fera des choix de poste et de régiment et à l'issue on lui proposera un contrat. Une fois qu'il aura signé son contrat, il va être formé donc en CFIM, donc ce sont les centres de formation initiaux des militaires du rang, et pendant entre 3 et 6 mois il va être formé à la fois comme soldat. Donc on va faire de lui un soldat, il va apprendre à s'habiller en treillis, à utiliser une arme, à faire du secourisme, à faire des transmissions, etc., du combat, du terrain. Il va apprendre à vivre comme un soldat, à s'entraîner physiquement, etc. Et puis, il va apprendre son métier technique. Voilà, être tireur dans un char, ça s'apprend. Donc tout ça, il va être formé, il va apprendre, par exemple, pour un métier un peu différent, il va apprendre à utiliser les moyens de transmission, il va apprendre à conduire un véhicule si c'est la mission qu'on lui confiera, etc. Avant d'être projeté en opération. Voilà. Il y a effectivement une montée en puissance ou une progressivité. Voilà, on ne met pas les gens avec une arme et on ne leur dit pas « saute de l'avion » ou « démarre tout de suite ». Non, il y a effectivement, voilà, on va le former et on va bien les former. Nos soldats sont extrêmement bien formés et lorsqu'on les engage en opération, ils sont prêts à remplir la mission pour laquelle ils ont été, pour laquelle ils sont recrutés.
Et justement, je pose cette question-là parce que est-ce que vous avez conscience que la population, peut-être, ils n'ont pas cette idée-là, ils n'ont pas conscience de toute cette formation qui est mise en place. Ils voient tout de suite le tu t'engages, tu pars tout de suite au front. Vous pensez qu'il y a cette conscience-là de la part de la population ?
Alors, je pense qu'il y a peut-être une méconnaissance de l'aspect formation initiale, effectivement, mais autrefois, c'est ce que nos parents et grands-parents, lorsqu'ils faisaient leur service militaire, ils faisaient leur classe, donc c'est un peu le même principe. Il y a effectivement cet accompagnement. Effectivement, on fait un métier qui présente des risques. L'actualité régulièrement, malheureusement, on voit nos soldats blessés, parfois tués, donc c'est effectivement un risque. Mais nos soldats en sont tous pleinement conscients et effectivement la formation est la plus adaptée et extrêmement pertinente pour nos jeunes soldats.
Justement, vous avez parlé des critères pour intégrer l'armée lors des tests, etc. A contrario, quels sont les profils que vous ne prenez pas ? Qu'est-ce qui est rédhibitoire chez un candidat voulant rejoindre les rangs de l'armée ?
Alors, je pense que... Je ne parlerai pas de critères rédhibitoires. Il y a des domaines, des questions de sécurité parfois, des condamnations trop lourdes. Pour un candidat qui aurait eu de gros démêlés avec la justice, ça sera compliqué. Les questions de drogue aussi, chez nous, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, puisque on confie à nos soldats les armes de la France. Ce sont des sujets qui vont poser problème pour un engagement. Mais autrement, on offre effectivement à l'ensemble de nos candidats l'opportunité de venir chez nous, de devenir soldat et puis de progresser. Chez nous, c'est dans les armées, dans l'armée de terre en particulier, environ 60% de nos sous-officiers sont d'anciens militaires du rang. Donc c'est quelque chose, on a l'habitude de dire, c'est le mérite pour progresser. Celui qui vient chez nous progressera, on attendra de lui qu'il progresse, qu'il donne le meilleur de lui-même, et en retour, l'armée de terre le fera évoluer dans sa carrière, lui offrira des opportunités de prendre des responsabilités, d'avancer, d'être formé. Tout au long de sa carrière, il sera formé. Voilà, la formation, on parlait de la formation, ce qui est important, la formation initiale, mais tout au long de sa carrière, il est formé. On parlait dans la première partie de l'évolution des matériels. Nos soldats, effectivement, suivent ces évolutions des matériels et sont extrêmement compétents, puisque... tout au long de leur carrière, on les fera évoluer en les faisant progresser avec des formations adaptées à chaque niveau.
Et justement, par rapport à cette jeunesse, vous sentez justement qu'il faut peut-être plus la sensibiliser sur l'importance de s'engager tout simplement à l'armée ?
Alors je pense que notre jeunesse est avide d'engagement. Je pense qu'elle est... Elle est complètement en phase avec ce que recherche l'armée de terre en particulier, puisque c'est vraiment on donne du sens à un métier. C'est plus qu'un métier, l'armée de terre. C'est effectivement, il y a un domaine technique, un aspect technique, mais on porte des valeurs d'altruisme, de service de l'autre, qui est quelque chose d'extrêmement important, le dépassement de soi, l'action, donc tous ces aspects font que nos jeunes sont pleinement sont prêts, je pense, à venir nous rejoindre, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement, je pense, un poste pour chaque jeune. Chacun peut trouver sa place au sein de notre armée.
Dans certaines villes en France, l'armée, sur les périodes de recrutement, se rapproche des collectivités territoriales, des villes, des maires, avec notamment les missions locales. J'imagine que pour vous, ça se passe à peu près pareil sur les périodes de recrutement.
Oui, effectivement, on a tout au long de l'année des salons, notamment des salons étudiants où on participe. On intervient dans les missions locales par des permanences, par la mise à disposition de prospectus, et puis on intervient en fonction des demandes. Je pense notamment, on intervient à côté à Magnanville, avec l'AFPA, qui est un centre de formation pour les professionnels. Et voilà, donc on a des partenariats avec les collectivités locales pour justement répondre aux attentes au plus près des candidats. Voilà. Venir au plus près des candidats pour leur expliquer ce qu'est l'armée, pour leur offrir l'opportunité de venir nous rejoindre.
Voilà, c'est pas seulement eux qui viennent à vous, c'est aussi vous qui allez à eux directement. Capitaine Henri, nous arrivons à la fin de cette émission d'État et Civil. Je vais vous laisser un dernier mot pour les auditeurs ou auditrices qui vous écoutent sûrement et qui peut-être hésitent ou ont envie de s'engager. Tout simplement, qu'avez-vous à leur dire ?
Alors, franchissez la porte du CIRFA, allez sur le site s'engager.fr, qui est la porte d'entrée, si l'on veut, des armées, de l'armée de terre, puisque à partir de là, vous aurez énormément d'informations mises à votre disposition. Vous aurez l'opportunité de venir rencontrer un conseiller en recrutement au sein d'un CIRFA, qui sont des soldats, puisque nous recrutons des soldats et nous sommes des soldats qui recrutons des soldats. Nous sommes vraiment, il y a vraiment une passion dans notre métier. Je pense que c'est vraiment le venez chez nous, venez franchir, prendre l'information de manière à découvrir peut-être une voie que vous n'aviez pas envisagée.
Capitaine Henri, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission d'État civil.
Merci beaucoup de votre accueil.
Malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission, mais ne vous en faites pas, on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi à 11h, pour un nouveau numéro d'État civil. En attendant, vous restez bien à l'écoute sur le 95.5 FM. Pour tout savoir sur l'actualité du moment dans les Yvelines, pas de soucis, restez bien à l'écoute, car vous allez retrouver la pause actu à midi et à 13h pour faire le plein d'infos locales. Petit changement et non des moindres dans la programmation, nous sommes toujours dans les semaines des quarts d'heure départementaux pour les élections départementales. Ça passera après midi, après 13h, avec la présentation des binômes candidats pour chaque canton. Cette semaine, vous aurez le droit à la présentation de ceux de Mantes-la-Jolie et de Poissy. Pour la fin de l'après-midi, de 16h à 19h, vous pourrez retrouver l'émission Le Live, présentée par Alice. Elle va vous accompagner, vous faire écouter les sons qui marchent le plus en ce moment. Et enfin, pour finir votre journée comme il se doit, de 20h à 22h, pour les vrais fans de notre rap français, Mallory et son émission du rap au mic vous font découvrir les talents de demain. Une émission 100% rap français, donc comme tous les mercredis. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'LFM.
C'était État et Civil.
C'était État et Civil
sur LFM.